Bonsoir à tous. Je vous invite à ouvrir vos Bibles dans Hébreux chapitre 6, versets 18 à 20. Ah, je voulais prendre la parole vivante. Personne n'a la parole vivante ici. Hébreux, parce qu'elle c'était très très bien dans la parole vivante. Il est impossible que Dieu mente. Et il veut que nous trouvions un puissant encouragement dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous était proposée. Cette espérance, nous la possédons comme une ancre de l'âme, dure et solide, elle pénètre au-delà du voile. Là où Jésus est entré pour nous comme précurseur, ayant été fait souverain sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek. Voilà, vous pouvez vous asseoir. La nature véritable du christianisme, elle est paisible et elle est heureuse. Mais pour entrer dans le royaume de Dieu, c'est à nous de jeter l'ancre. L'ancre de l'espérance est de la jeter au-delà du voile de la matière. Alors, ça peut paraître très poétique. Alors voilà, on a une idée, voilà, le royaume de Dieu, la présence de Dieu, le trône de Dieu, et puis nous sommes là sur la terre, et puis on a jeté l'ancre là, et on se tient bien solidement, c'est très très joli. C'est dans le lieu saint, donc, que nous devons jeter l'ancre. Là où Jésus-Christ est entré avant nous. Jésus, il est entré là avec les blessures que lui avaient infligé les terriens. Vous vous rappelez, j'aimais bien dire les terriens. Il a inauguré la route qui va du cœur des croyants jusqu'au cœur de Dieu. Et malgré les souffrances, nous avançons sur cette route avec une assurance inébranlable. C'est le terme, plutôt que de dur, et comme c'est écrit là, une solide ou... C'est écrit avec une assurance inébranlable dans la parole vivante. J'aime bien ce terme. Et pourquoi est-ce que ce terme est employé dans ce texte inspiré? Mais parce que nous avançons sur cette route, et sur cette route, on trouve bien des douleurs et des afflictions qui, parfois, peuvent nous déstabiliser. Mais nous sommes ancrés, et notre assurance, elle reste inébranlable. Bon, on peut être chahuté un peu, mais jamais pour quitter la route. Vous voyez ce que je veux dire, mes frères et sœurs? Alors, Dieu veut que nous sachions, il veut que nous connaissions, il veut que nous ayons un savoir parfait. Il ne suffit pas de lire la Bible du bout des yeux. Notre assurance, elle peut être inébranlable, pas parce que nous sommes, parce que Dieu a tout fait pour nous, comme on pense malheureusement très souvent dans les milieux de bébés spirituels. Non, c'est pas parce qu'il a tout fait pour nous, mais c'est parce que nous pouvons maintenant nous saisir de l'espérance que Dieu nous propose, et on peut la saisir de toutes nos forces. Cette espérance. C'est ce que j'aime aussi dans la parole vivante. Vous irez regarder dans la traduction parole vivante. C'est dommage que je ne l'ai pas prise avec moi. Nous apprenons par les Écritures que Jésus a tout accompli pour que nous puissions entrer dans la présence de Dieu, justement, au-delà du voile. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a tout accompli pour que nous puissions aller au-delà de notre chair, au-delà de notre moi, au-delà de l'existence matérielle, au-delà de l'existence de ces choses émotionnelles qui nous tourmentent. Hein, on a souvent des sentiments qui nous tourmentent. Ça peut être la colère, ça peut être la jalousie, ça peut être toutes sortes de choses, des sentiments qui nous déchirent. Mais par le Livre Saint, nous apprenons que la science que Dieu nous donne, elle est parfaite, il nous la propose, et elle nous encourage, cette science, à nous saisir de toutes nos forces, de cette espérance. C'est nous qui devons nous saisir de toutes nos forces. Il nous propose cela en nous faisant connaître les mystères de la connaissance de sa science, et il nous dit que c'est un refuge. Il nous le propose. Bon, il y a des afflictions, il y a des souffrances, mais il y a un refuge. Qui dit refuge dit bien qu'il y a quelque chose qui va pas clair, qui est pas bon, qui est dangereux. Mais il y a un refuge. Et ce refuge, c'est pas sa présence, c'est notre espérance. Si vous regardez bien le texte, c'est pas sa présence qui est un refuge, c'est notre espérance. Pourquoi est-ce que je dis que c'est pas sa présence qui est un refuge? Parce que presque tout le monde pense que c'est sa présence qui est un refuge. Mais non, parce que Dieu dit que c'est notre espérance qui est un refuge et non pas sa présence. Parce que la présence de Dieu, elle est partout. Il ne peut pas ne pas être quelque part. Il est partout. Mais notre espérance, c'est l'ancre que nous jetons au-delà du voile, c'est-à-dire au-delà de notre chair, au-delà de tout ce qui est notre ego, au-delà de tout ce qui est du niveau émotionnel, de souffrance psychique, psychologique et même physique. Comment est-ce que je peux affirmer ça? Sur quelle base je peux dire ça? Un jour, un chrétien pas très bien affermi m'a dit « Bof, de toute façon, la Bible, on peut lui faire dire ce qu'on veut. Est-ce que tu dis là, c'est des interprétations ?» Je dis non, mes frères et sœurs. Nous devons être des scientifiques des Écritures sacrées. Et en tant que scientifique, je dis non. Un scientifique, c'est quelqu'un qui connaît, qui a de la science. Je dis non, la Bible, elle parle par elle-même. Il y a une façon sacrée de la lire. C'est une science, il y a une connaissance qui est nécessaire si on veut bien saisir la pensée de Dieu afin qu'il nous propose, afin que nous puissions être ancrés et inébranlables. Par exemple, la connaissance des symboles qui lui sont propres, c'est des symboles qu'on ne trouve que dans la Bible. Bon, il y a des fois, les gens de ce monde ont pris certains symboles comme la colombe, c'est la paix, gna 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 gna. Tout ça, ils sont un peu inspirés de la Bible, mais bon. Quand la lettre aux Hébreux parle, par exemple, de jeter l'ancre au-delà du voile, la lettre aux Hébreux veut dire que nous devons jeter l'ancre au-delà de l'ego, de la chair. Hébreux 10, 20 nous donne cette assurance. Il est dit dans Hébreux 10, 20 que Jésus a frayé le chemin, un chemin nouveau qui mène à la vie au-delà du voile, c'est-à-dire de sa chair. Il était voilé, c'était Dieu qui était voilé dans un corps de chair. Et vous croyez que notre corps c'est quoi? Il s'est fait semblable à nous, ça veut dire que notre corps c'est aussi un voile. Le symbole terrestre de sa chair a été déchiré au moment où il a rendu l'esprit sur la croix, le symbole. Matthieu 27, 50, 51 nous parle de ça. Jésus était le vrai temple de Dieu, son corps était le vrai temple de Dieu et quand il était là à la croix, l'esprit, c'est-à-dire Dieu, est sorti du temple, c'est-à-dire de son corps, et à ce moment-là, de sa chair, et à ce moment-là, le symbole de cette chair s'est déchiré dans le temple fait de main d'homme. Tout le monde sait qu'au moment où Jésus a rendu l'esprit, le voile du temple à Jérusalem s'est déchiré du haut en bas, et ça n'était pas fait par la main d'un homme, c'était l'ouverture, c'était l'esprit qui sortait. Jésus est allé au-delà de la chair. Les disciples qui l'ont connu, quand il était sur la terre, après sa résurrection, il disait, vous trouvez ça dans 2 Corinthiens 5, 16, « Si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant nous ne le connaissons plus de cette manière. » On ne connaît plus le Jésus de Nazareth qui allait de lieu en lieu, maintenant on ne le connaît plus de cette manière, c'est un autre. Et Paul ajoutait même, il disait, il est plus loin, il disait, « D'ailleurs, nous ne connaissons personne selon la chair. » Personne selon la chair. Pourquoi ne devons-nous pas regarder les gens selon la chair? Parce que si on les regarde selon la chair, mais on se tire une balle. C'est tellement triste de regarder. C'est pourquoi l'apôtre nous dira un peu plus loin, c'est pas contre la chair et le sang que vous avez à lutter, mais contre des esprits mauvais. Allez regarder au-delà de la chair. En Christ, tous sont morts, tous, même les incroyants. En Christ, oui, en Christ, tous sont morts, parce que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné sa vie pour tous. Mais c'est seulement ceux qui croient, n'est-ce pas, qui seront sauvés. Mais Dieu nous propose de les regarder tous comme morts. Quand ils nous font du mal, ce n'est pas la chair, c'est un esprit. Il dit, ce n'est pas contre la chair que nous avons à lutter, mais contre des esprits. Oh, Michel, voilà, c'est encore une interprétation des Écritures, cela. Non. On va lire 2 Corinthiens 5, 14, 16. Et vous allez voir, on ne peut pas interpréter ça. Ce qu'il a voulu dire, c'est ce qu'il a dit. Ce qui est écrit, c'est ce qu'il a voulu nous communiquer. Et voilà ce que je trouve. 2 Corinthiens 5, 14. Car l'amour de Christ nous presse parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous sont donc morts. Je répète, quand il dit qu'il est mort pour tous, ça veut dire à la place de tous. D'accord ? Quand on dit « il est mort pour vous », ça veut dire « il est mort à votre place ». Donc je redis le texte. « Car l'amour de Christ nous presse parce que nous estimons que si un seul est mort à la place de tous, tous sont donc morts ». Est-ce que c'est vrai ? Est-ce que c'est faux ? Est-ce que c'est interprétable ? Ça veut dire ce que ça veut dire. Et, donc l'amour de Christ nous presse parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous sont donc morts. Et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Ceux qui vivent, c'est qui ? C'est ceux qui sont vivants de l'Esprit de Dieu, les croyants. Donc, pour nous qui sommes morts et qui vivons maintenant par l'Esprit de Dieu et pour Christ, nous ne vivons plus pour nous-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux, c'est-à-dire pour Jésus-Christ, nous vivons pour Jésus-Christ. C'est pourquoi il dit, mais la mort m'est un gain, parce que finalement me débarrasser de ce corps, mais franchement c'est un avantage. Si je vis, c'est pour Christ, mais si je meurs, c'est aussi pour lui, je suis content de partir. Il continue en disant ainsi, dès maintenant. Depuis quand ? Depuis qu'on le sait. Dès maintenant, nous ne connaissons plus personne selon la chair. Et si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant nous ne le connaissons plus de cette manière. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Ça n'est pas une interprétation de ma part. Il dit ce qu'il veut dire. C'est cela la façon de vivre du disciple, du véritable disciple. C'est quelqu'un qui se met au pied du maître et qui écoute l'enseignement et qui conforme sa vie à l'enseignement qui est donné par le maître. C'est une autre façon, c'est une autre vision que celle des gens de ce monde qui sont des ignorants, qui n'ont pas la science divine, et alors ils ont une autre façon de comprendre les choses et de vivre les choses. Mais nous avons la vérité, parce que notre Dieu est la vérité. Il est la vérité incarnée, il est venu se montrer, il est venu montrer ce que c'est la vérité. Les souffres, mais ça peut être vrai et ça peut être ignoré. Et si c'est ignoré, ça ne peut pas être vécu. Il faut que ça soit su. Et voilà pourquoi les Écritures. Jésus est toujours le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Il sauve, il guérit, il baptise, l'Esprit, il revient, ça c'est le plein évangile. Excusez-moi, il y a quand même d'autres choses dans la parole de Dieu qui font que nous pouvons vivre une autre sorte de vie. Les souffrances dues à la chair, aux sentiments, aux exigences de notre ego, Dieu nous propose d'aller au-delà, d'ancrer notre espérance ailleurs, au-delà du voile, au-delà de notre chair, au-delà de ses besoins, même légitimes. Paul dit, je traite durement mon corps. Vous voyez ? La chair ne sert de rien, toutes les sensations dites spirituelles ne sont encore que des manifestations de la chair, c'est en esprit que nous connaissons Jésus, ou alors nous ne le connaissons pas. Nous connaissons des choses qui le concernent, on a entendu parler, mais on ne le connaît pas. Dieu est venu habiter parmi nous, il s'est voilé dans un corps de chair semblable au nôtre, n'est-ce pas ? Dans ce corps de chair, il a souffert. Je vous ai dit l'autre jour, c'est pas son esprit qui a souffert. C'est son être vivant d'humain qui a souffert. Et à la croix, il est sorti de ce corps de chair. Dieu est sorti de ce corps de chair pour aller au Père. Et il a fait en cela l'inauguration de la route par laquelle nous passons. C'est pourquoi il dit, je suis le chemin. Et la route par laquelle nous passons, c'est cette route Nous n'y passons pas forcément parce que nous sommes croyants. Et ce n'est pas forcément parce que Dieu nous la propose qu'on rentre et qu'on passe par cette route. On peut très bien rester là, avoir... Il y a une porte étroite, difficile à trouver. Et quand on a trouvé cette porte et qu'on l'ouvre, eh ben on trouve un chemin. Mais il y en a peu qui prennent ce chemin. Mais il y en a qui ne savent même pas qu'il y a un chemin. Ils disent, il y a un chemin, mais ils ne l'ont jamais vu, ils ne l'ont jamais emprunté. Il nous faut comprendre ce que c'est que cette route, mes frères et sœurs. Nous ne pouvons pas y passer sans souffrance. On ne peut pas. C'est dans le plan de Dieu. Parce que notre chair, notre moi, notre ego ne veut pas mourir. Il ne veut pas. Et pourtant, ce n'est qu'en mourant, selon la chair, que nous accédons au vrai monde, c'est-à-dire à celui de l'esprit. Mais nous pouvons vivre le monde de l'esprit dans la chair, mais dans une chair soumise, dans une chair, dans un ego soumis, mort au monde, mort aux principes, aux croyances, aux idées, aux sentiments de ce monde. La science de Dieu nous apprend que nous sommes morts en même temps que Jésus à la croix. On l'a lu, on l'a étudié ces derniers temps. Et nous avons à nous considérer comme morts pour le monde. C'est Paul qui dit ça. C'est nous qui devons nous considérer comme morts pour le monde. Morts au sujet de ces sollicitations. Morts pour tous ces trucs qui imitent, parce que dans le monde, ils imitent la réalité, la vérité, ils imitent les lois de Dieu, ils imitent la foi, ils imitent la joie divine, ils imitent la vérité, ils imitent même l'amour, ils imitent tout. Et nous avons à marcher sur cette route en prenant bien garde de maîtriser, de maintenir la chair dans la mort, c'est-à-dire à la croix. De la crucifier nous-mêmes et de la maintenir là. Paul dit, j'ai été crucifié avec Christ et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Si je vis dans la chair, dans un corps, je vis dans la foi au Fils de Dieu. Galates 2, 20. Vous connaissez tout ce passage. Donc il est bien conscient que son corps était autrefois le temple du péché et que, c'est-à-dire de l'erreur, des fausses sciences, des fausses idées, des faux sentiments, des faux tout ce que vous voulez, mais que maintenant, il a jeté son encre au-delà de cela, dans la véritable spiritualité, et maintenant il dit, si je vis dans ce corps, c'est dans la foi uniquement en Jésus-Christ et non pas avec toutes les exigences de mon ego. Dans notre chair, c'est plus le péché qui vit, c'est Jésus-Christ. Le corps du péché est mort. Qu'est-ce que c'est le corps du péché? C'est notre corps. Il est mort à la croix. Et maintenant, notre corps, c'est le temple de Dieu. On a changé de maître. Rappelez-vous dans Romains 7, et ça c'est très mal compris, et je l'ai déjà prêché, mais je vais le redire. Paul nous parle de plusieurs étapes dans sa vie. Il nous dit qu'à un moment donné dans sa vie, la loi n'avait pas de prise sur lui. C'est quand que la loi n'avait pas de prise sur lui? C'était avant l'âge de 12 ans, parce qu'avant l'âge de 12 ans, Dieu ne tient pas compte. Nous sommes dans le temps de l'innocence, de l'enfance, et Dieu ne tient pas compte de cela. Mais à partir de 12 ans, nous entrons dans les choses spirituelles. Chez les Juifs, c'est la bar mitzvah, nous en avons fait aussi quelques-unes ici, ou alors c'est le baptême, comme Lucas s'est fait baptiser. Et alors à partir de là, qu'est-ce qui se passe? On se trouve sous la loi de Dieu, et la loi de Dieu, elle nous fait connaître le péché, elle nous fait... C'est rigolo parce qu'on pourrait penser la loi, au contraire, ça nous montre ce qu'il faut faire de bien. Mais oui, mais comme elle nous montre ce qui est bien, le péché, saisissant l'occasion, nous pousse à faire des choses contraires à la loi de Dieu, et alors on se sent pécheur, désirant faire le bien, mais en se trouvant en nous l'incapacité de le faire. Et c'est là que l'apôtre Paul dit, mais misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort? Il dit pas ça en tant que chrétien, il dit ça en tant que homme qui est sous la loi, et il dit, mais heureusement, grâce à Dieu, par Jésus-Christ, je peux être délivré. Mais comment je peux être délivré? En ayant la connaissance de ce que Jésus-Christ a accompli sur la croix. Et j'étais avec lui quand il est mort, je suis mort, je me considère comme mort, et maintenant, son esprit vient habiter en moi, ce n'est plus le péché qui vient en moi, c'est Christ qui vient en moi, c'est plus mon être déchu, c'est Christ qui vient en moi, je suis une nouvelle personne. Et j'ai le pouvoir par l'Esprit de Dieu qui est en moi de renoncer au mal, de renoncer au futile, de renoncer à ce qui n'est pas selon la volonté de Dieu. C'est par la grâce de Dieu, c'est par Jésus-Christ en croix que je peux être délivré de ce corps de mort. Alors, il a désormais donc livré son corps pour être le temple de Dieu, et c'est ce que Dieu nous propose à nous aussi, c'est de livrer notre corps pour être le temple de Dieu, ce qui nous permettra de vivre selon l'esprit qui nous, le nouvel esprit, le Saint-Esprit qui nous habite, et non pas selon cet esprit qu'on avait avant quand on était dans le monde, hors de la connaissance de cette science que Dieu nous fait connaître dans les Écritures. Et c'est ça le message de l'apôtre Paul. C'est cette connaissance qu'il nous donne. Et par elle, par cette connaissance que l'apôtre Paul nous donne, Dieu nous propose d'ancrer nos vies au-delà de notre corps, au-delà de notre chair, au-delà de notre ego, dans la présence réelle de Dieu. Les gens vont chercher bien loin, en Inde, des histoires spirituelles, alors que nous avons tout ce qu'il faut dans les Écritures. Seulement voilà, si on la lit du bout des yeux, on ne trouve pas ces profondeurs et on ne sait pas comment faire parce qu'on n'a pas d'exemple. Là, on a l'exemple de Paul. Pas de Paul seulement, mais de tous les apôtres, de tous les disciples de cette époque. Nous avons la possibilité maintenant de nous réfugier dans cette espérance qui nous est proposée. Alors, comme notre maître, il nous faut passer du sens matériel au sens spirituel de l'être. Au sens spirituel de l'être, qui n'est autre que la foi. Rappelez-vous, frère Branham disait ça, on a un sixième sens, c'est la foi. Vous vous rappelez qu'il disait ça ? Eh bien, nous devons passer du sens matériel, la vue, le goûter, le toucher, les sensations et tous ces machins-là, au sens spirituel de l'être, c'est-à-dire la foi, et avancer sereinement, bien que, comme à l'image de notre maître, les pieds ensanglantés sur notre route, on est blessé tout le temps. Mais on avance quand même sereinement et on récolte déjà ici-bas, selon la promesse de Dieu. La Bible nous dit que celui qui, à cause de son Père, à cause de Jésus, renonce à ceci, cela, là et là, eh bien, il récolte déjà ici-bas, au centuple. Mais avec des persécutions, avec des afflictions, avec des souffrances, c'est obligé. Et la fin, c'est la vie éternelle. Mais s'il n'y a pas de souffrance, il y a un problème. Amen. Alors, une moisson de paix pour chacun de nous pour le moment. C'est un peu dur, mais bon, voilà, on continue. Est-ce que vous voulez encore continuer ? Est-ce que vous voulez encore marcher, même si ça vous blesse les pieds ? Est-ce que vous acceptez d'aller jusqu'au bout ? Moi, j'ai choisi ça et je vais continuer. Ah, il y a des moments où je me suis assis au bord de la route, là, c'est fatigué, ras-le-bol. Mais j'ai puisé ma source dans ma foi. Ma foi en quoi ? Dans ce que la Bible dit. Parce que la Bible dit la vérité, parce qu'elle est la vérité. Amen. Jésus, je te prie de bénir mes frères, de bénir mes sœurs, de les aider à se saisir de toutes ces choses. Ça, c'est pas l'esprit du monde. Ça, c'est pas l'esprit de religion. Ça, c'est la vérité. C'est ce que tu as permis que nous sachions. Et nous te bénissons pour cela, mon Dieu. Nous te remercions de pouvoir avoir une foi assise sur quelque chose de solide et d'avoir une ancre dans le réel qui nous offre une totale sécurité. Merci, Seigneur Jésus. Amen. Amen.